Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on va commenter tous les meilleurs moments de ces dernières 24 heures sur RMC avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Benjamin Muller et Fred Hermel. On va commencer avec les GG ce matin. Faut-il imposer un uniforme à l'école? Le débat revient aujourd'hui avec la proposition de loi que souhaitent déposer certains députés Renaissance, avec comme arguments la défense de la laïcité, favoriser le pouvoir d'achat des parents et enfin booster l'industrie textile française. Témoignage tout à l'heure dans les GG d'Aurélie. Elle a connu l'uniforme à l'école en Martinique et elle n'en garde pas un très bon souvenir.
Les uniformes, c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire, pour avoir une unité, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que on vous vend un uniforme à l'école qui est très cher. Je me souviens qu'une jupe, c'était genre, par exemple, 300 francs, juste la jupe. Et par contre, vous pouviez les acheter dans des magasins moins chers, mais elles avaient moins de qualité. Donc, on voyait tout de suite que vous aviez moins de sous. Et puis, vous pouviez aussi voir les différences de niveau social avec simplement des bijoux, voilà, ou les chaussures, ou les niveaux sociaux n'étaient pas vraiment différenciés finalement.
Pour ou contre l'uniforme à l'école, Benjamin, vous qui avez plein d'enfants?
Plein d'enfants, pas d'uniforme, mais des enfants qui ont des copains qui, eux, ont des uniformes dans les collèges où ils ont pu entrer, privés, c'est essentiellement en France.
Oui,
mais
ça, oui.
Plutôt pour. J'ai vu quand j'étais en Guadeloupe des gamins qui sortaient d'une école où ils étaient tous habillés pareil. Alors effectivement, on peut toujours avoir une bague ou une belle montre qui montre qu'on est un peu plus riche que les autres. Mais globalement et surtout à l'âge de 7-8 ans, où bon, je pense que les enfants s'en foutent un peu. Je trouve que socialement, moi c'est même pas une histoire de laïcité ou une histoire de quoi que ce soit. C'est surtout pour une histoire sociale. C'est-à-dire que là il y a plus de question de marque, etc. Je l'ai vu aussi en Angleterre où j'étais dans un bus et là il y a plein de gamins qui sont en train de bus et
tous... canon, les
et en plus voilà, il y a un côté Harry Potter. Ils avaient tous la classe. Les filles, elles étaient toutes. Enfin bon, bref. En plus, ils se draguaient tous les uns les autres. J'avais l'impression d'assister à un grand truc assez romantique. J'ai trouvé ça pas mal. Juste, si on fait ça, il faut des uniformes made in France. Qu'on nous fasse pas le coup de la mascotte des Jeux Olympiques, la made in China.
Ils vont les fabriquer en Chine, ça c'est sûr que ça n'ira pas.
Ouais, mais regardez sur la mascotte, ils ont réussi à nous le faire. Donc, mais plutôt pour.
Frère, mais bon, j'ai même pas. Enfin, je sais déjà que vous allez me dire oui, Fred. Hein, tout
à fait. Oui. Parce que j'ai entendu les arguments donnés par les promoteurs de la loi. Il n'y a que des avantages. Voilà. Et puis cette question de la laïcité, parce que
non, t'as quand même un inconvénient, c'est que à l'adolescence, par exemple, c'est le moment où t'as envie de montrer parfois ta différence.
Bah, tu fais ça en dehors de l'école.
Ouais, mais c'est pas pareil. Enfin, tu vois.
L'école moment, doit être considérée comme un sanctuaire. Un sanctuaire où on apprend des choses, où on acquiert un certain savoir. Et dans ce sanctuaire, on doit avoir effectivement une certaine unicité. Et je trouve que pour s'exprimer en tant qu'adolescent, on peut le faire ailleurs. Et pour reprendre l'exemple anglais dont tu parlais, Benjamin, il y a une fierté en plus d'appartenance à son école.
Ouais, exactement.
Chacun a son écusson. Enfin, il y a un truc quand même qui se passe.
C'est comme le maillot de ton équipe, en
exactement.
Fait.
Exactement. Et voilà, je pense que ça serait une bonne chose. Encore une fois, pour plusieurs raisons. La laïcité d'un côté, le gommage quand même un petit peu de certaines
différences sociales,
même si effectivement il y aura toujours la montre qui fera la différence.
Ou les baskets, mais
quand même, c'est quand même très important. Et ça se fait très bien dans d'autres pays. Et contrairement à ce qu'on dit d'ailleurs, il n'y a jamais eu d'uniforme en France. Il n'y a pas de rétablissement d'un truc.
Non, on mettait des blouses. Moi, quand j'étais petit, on avait une blouse.
C'était pour la pauvreté, c'est tout.
C'était des blouses plutôt bariolées. Dans les années 70.
Et il y a en plus d'écoles qui proposent en tout cas des sweats et des t-shirts aussi aux élèves pour qu'ils puissent
un peu
porter.
Corpo, quoi. Voilà,
c'est pas un uniforme,
à l'américaine,
pas le sweat pour aller au sport, par exemple. Un peu à l'américaine. Apolline Matin, ce matin, la 38e campagne des Restos du Cœur s'ouvre aujourd'hui et le nombre de demandeurs ne cesse d'augmenter, plus 12% par rapport à l'année dernière. L'association a donc plus que besoin de donateurs et de bénévoles. Patrice Douret, le président des Restos, était l'invité d'Apolline ce matin.
C'est la première fois qu'on a une situation aussi incertaine. La seule certitude, c'est qu'effectivement, on a besoin des Restos du Cœur aujourd'hui. Ce que l'on constate, c'est une augmentation assez importante de 12% du nombre de personnes accueillies sur la même période cette année que par rapport à l'année dernière. Beaucoup de familles, 15% de familles, et un chiffre qui nous inquiète beaucoup plus, c'est aussi la présence de bébés de 0 à 3 ans, avec 110 000 bébés, dont le nombre a augmenté aussi ces derniers mois.
Patrice Douret, comment est-ce qu'on peut aider ?
Aujourd'hui, on a une équation à trois inconnues. On voit bien que, premièrement, c'est la précarité. Rien n'indique que les coûts vont diminuer. Deuxièmement, ce sont nos ressources. Les ressources financières aujourd'hui des associations peuvent être affectées. Nous achetons un tiers de ce que nous distribuons, je rappelle, gratuitement au Resto du Cœur. Ce qui veut dire que nous sommes aussi impactés par la hausse des coûts. que ce soit sur l'énergie ou l'alimentation. Et puis, bien évidemment, les ressources bénévoles. Nous, sans les 70 000 bénévoles qui sont aujourd'hui sur le terrain toute l'année, on ne ferait rien. Sans les donateurs, on ne ferait rien. Donc ça veut dire qu'effectivement, pour pouvoir continuer à les aider, et nous tenons à le faire et nous prenons nos responsabilités effectivement en le faisant et en le faisant plus fortement encore, il va falloir aider les Restos du Cœur, notamment financièrement bien évidemment, mais également en permettant de favoriser le bénévolat.
Et c'est vrai que c'est une catastrophe, Fred, parce qu'en plus, l'inflation touche oui. les ménages, donc les ménages donnent moins, évidemment, bien il y a sûr. Ça aussi. Et puis souvent, l'aide alimentaire, tu sais, tu fais ton caddie et tu redistribues, mais là, si tu n'as pas toi de nourrir toi-même, tu ne vas pas aller faire un don, quoi.
Non, et en plus, je lisais un article qui expliquait que les propres bénévoles sont aussi des citoyens, pas forcément des gens très fortunés.
Modestes, c'est ça.
Modestes. Et en fait, le truc, c'est que ils sont aussi fragilisés par l'inflation. C'est ce qu'on dit tout le temps, mais quand Coluche, le merveilleux Coluche, qui nous manque tant, avait pensé les Restos du Corps, il n'y voyait qu'un petit effort pendant quelques années.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est le pire, c'est que les Restos du Corps sont étatisés, institutionalisés.
Ils se sont substitués à l'État, en fait.
Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait partie du panorama de la République française.
Tout à fait.
Et c'est pas normal. Ça n'aurait dû être qu'une mesure d'urgence d'un.
Et c'est pire en pire. Mais
non seulement ça, mais dans l'interview de ce matin, ce qui était très touchant, c'est qu'il expliquait qu'il y a aujourd'hui des gens qui arrivent au Resto du Cœur qui hésitent entre acheter un litre d'huile et un litre d'essence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils s'attendent à une vague qui va arriver chez eux, là, au moment de l'hiver, de gens qui ne pourront plus mettre un litre d'essence pour aller travailler, tout simplement. Pour aller travailler. Et donc, ils feront le choix entre se nourrir et aller travailler. Il a dit aussi qu'il était contre la réforme de chômage dont on a parlé tout à l'heure, parce qu'il pense que ça va lui ramener une vague de gens en fin de droit. Je te dis pour ça,
Fred,
je pense que ça va être un effet mécanique.
Et ce qui est terrible aussi dans ce qu'il dit, c'est les bébés, les familles, surtout d'ailleurs des familles monoparentales, quoi, en clair des femmes avec des enfants qui arrivent, poussent la porte des Restos du Cœur pour du lait, pour des couches, pour des lingettes. Quand on en est à se poser la question de est-ce que je me nourris moi, je nourris mon enfant et je nettoie mon enfant, vous imaginez, enfin, on peut pas imaginer tout cela. Quand j'étais petit, ma grand-mère était bénévole au Resto du Cœur du côté de Metz, et de temps en temps, j'étais allé la voir pendant qu'elle faisait la distribution. Et dans mon souvenir, il n'y avait aucun gamin qui faisait. C'était des hommes essentiellement d'un certain âge. On comprenait que c'était. Enfin, dans mon souvenir,
coup de SDF,
accidenté de la vie, comme ma grand-mère disait.
Aujourd'hui, c'est plutôt comme ça.
Et là, maintenant, c'est pas ça. Maintenant, c'est des familles. Alors, je dis pas que c'est pas c'est plus terrible par rapport à des étudiants, effectivement, des étudiants, et donc des familles avec des jeunes enfants. C'est quand on dit que ça se substitue à l'État, c'est quand même un problème terrible.